VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique ici aux États-Unis. La transition de l'administration Obama au futur gouvernement du président élu Donald Trump s'accélère. Donald Trump et son vice-président Mike Pence ont eu des consultations mardi à New York pour discuter des candidats au poste clé de leur future administration. Précision de Jean-Roger Bion.
Messieurs Trump et Pence, qui assumeront le pouvoir le 20 janvier, ont plus de 4000 emplois à pourvoir. Mais pour l'heure, l'accent est mis sur les postes de secrétaire d'État, secrétaire à la Défense, ministre de la Justice et secrétaire à la Sécurité intérieure. Il s'agit là de ministères qui seront en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Mais aucune annonce n'a été faite à la fin des consultations entre le président élu et son numéro 2. Selon certains de leurs collaborateurs, Rudy Giuliani, âgé de 72 ans pour être nommé secrétaire d'État, ce farouche partisan de Trump n'a aucune expérience en politique étrangère, fait-on remarquer. Mais Giuliani s'est rendu célèbre il y a plus d'une décennie quand il était maire de New York lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Il est devenu depuis un symbole de la détermination des États-Unis à défaire le terrorisme islamiste. Serait également sur la liste John Bolton, ancien ambassadeur de George W. Bush à l'ONU. Ce faucon républicain était, pour rappel, un chaud partisan de l'intervention américaine en Irak. Trump a toujours soutenu, lui, qu'il était contre.
Le président syrien Bachar al-Assad s'est dit prêt mardi à coopérer avec le futur président américain Donald Trump dans la lutte contre les islamistes, ajoutant qu'il fallait attendre de voir si le prochain locataire de la Maison-Blanche allait changer la politique américaine vis-à-vis de la Syrie. Réagissant pour la première fois à l'élection du milliardaire républicain à la présidence américaine il y a une semaine, Bachar al-Assad a jugé que Donald Trump avait tenu des propos prometteurs sur la nécessité de combattre les islamistes dans le pays. Afrique maintenant, au Kenya, le gouvernement kenyan, confronté aux vives critiques des organisations de défense des droits humains, a repoussé au 21 mai 2017 la date de fermeture du complexe de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde qui abrite essentiellement des Somaliens. À deux semaines de la date initialement retenue par le gouvernement kenyan fin novembre, cette annonce fait suite à une requête du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, l'UHCR, sur fond d'accusations de retour forcé de réfugiés aux Somaliens qui, dans leur grande majorité, veulent rester au Kenya. Le rapatriement se poursuivra de façon humaine, digne et en sécurité, a déclaré aujourd'hui à la presse le ministre kenyan de l'Intérieur, Joseph Nkaiserry. Rappelons que le gouvernement kenyan avait pris de court les réfugiés, les agences humanitaires, l'ONU et les partenaires occidentaux du Kenya en annonçant le 6 mai sa décision de fermer le camp de réfugiés de Dadaab à la fin novembre pour raisons de sécurité. En RDC, le président Joseph Kabila a prononcé mardi un discours devant le Parlement. Il a déclaré que son avenir politique est réglé par la Constitution. L'opposition rejette ses propos selon lesquels l'accord politique issu du dialogue est la seule feuille de route pour conduire le pays aux élections. La coalition des Congolais pour la transition, par exemple, se veut absolument intransigeante. On écoute son président Emery Damien Kalouira.
Monsieur Kabila a décidé de déclarer une guerre ouverte avec le peuple congolais qui, à plus de 98%, ne jure que par le changement de l'administration de Monsieur Kabila. Dans ce discours, Monsieur Kabila insulte les jeunes congolais en les qualifiant d'être des jeunes manipulés. Et le peuple ne lui demande qu'une seule chose, rendre sa démission. Et s'il ne veut pas rendre sa démission, la coalition des Congolais pour la transition et toutes les forces alliées avec lesquelles nous sommes en pleine consultation allons nous donner la mission constitutionnelle en vertu de l'article 64 de la Constitution pour les mettre hors d'état de nuire.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition. Au Cameroun, 21 personnes sont mortes après avoir consommé de l'odontol. une boisson locale très alcoolisée et réputée dangereuse. Les autorités des zones concernées ont annoncé l'interdiction de la production et de la commercialisation de ce breuvage produit et vendu généralement dans le circuit informel. L'eau d'Antoine est produit à base de vin de palme, de sucre et d'une écorce d'arbre. Il est bon marché, attirant les petites bourses qui ne peuvent pas s'offrir plusieurs bières ou du whisky vendu dans les commerces. Ce n'est pas la première fois que des morts sont enregistrés dans le pays après la consommation de cette boisson.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Nigeria, le groupe rebelle nigérian des Vengeurs du Delta, auteur de nombreux sabotages depuis le début de l'année dans le sud pétrolier, a revendiqué aujourd'hui plusieurs attaques contre des oléoducs pouvant entraîner une forte chute de la production de brut locale. À 22h45, le 15 novembre, notre unité d'élite numéro 3 a frappé les lignes de transport Nembe opérées par les compagnies Agip, Rwando et Shell avec une capacité d'approvisionnement de 300 000 barils par jour vers le terminal d'exportation de Boni dans l'état de Bayelsa. C'est ce qu'affirment dans un communiqué les Vengeurs du Delta, un communiqué qui a été publié dans la nuit de mardi à mercredi. Aucune confirmation des attaques n'a été apportée par les autorités nigérianes ou les sociétés concernées. Les opérations de sabotage des Vengeurs du Delta ont provoqué une forte chute de la production de brut du Nigeria qui a cédé à l'Angola la place de premier producteur africain de pétrole. Et toujours au Nigeria, l'ONU tire la sonnette d'alarme. 14 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence et 75 000 enfants risquent de mourir de faim dans quelques mois. De son côté, Abuja a prévenu d'une famine imminente dans le pays. Anastasie Tudjesh.
D'après Peter Lundberg, coordinateur de l'action humanitaire pour les Nations Unies au Nigeria, 14 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont 400 000 enfants dans une situation critique et 75 000 qui risquent de mourir dans les prochains mois. Il a donc lancé un appel aux donateurs à mettre la main à la poche. Pour l'instant, l'ONU n'a recueilli que 180 millions de dollars, alors que les besoins se chiffrent à 485 millions de dollars. Abuja voudrait faire plus pour les millions de déplacés par les attaques de Boko Haram dans l'état de Borno. Mais avec la chute du prix du baril, le géant pétrolier est entré en récession. Le pays manque de devises pour importer sa nourriture. Le porte-parole de la présidence, Garba Shehu, a demandé lundi aux producteurs de céréales nigérians de vendre sur le marché national au lieu d'exporter vers les pays voisins. Selon lui, le Nigeria pourrait être en situation de famine d'ici janvier prochain.
En Mauritanie, des centaines de Mauritaniens ont manifesté hier devant la Cour suprême à Nouakchott pour réclamer l'exécution d'un blogueur condamné à mort pour un article sur Internet jugé blasphématoire envers l'islam. Les détails avec Nani Talani.
Les manifestants répondaient à l'appel du forum des oulémas et imams. Devant la Cour suprême, ils ont entonné des chants religieux et des slogans contre l'accusé, qualifié d'ennemi de l'islam. La Cour suprême examine le dossier de Cheikh Ould Mohamed Ould Mohamed, détenu depuis 2014 pour un article sur Internet considéré comme blasphématoire. La défense du blogueur a demandé à la Cour d'entendre son repentir. En première instance, l'accusé a été reconnu coupable d'apostasie et condamné à mort le 24 décembre 2014 par la Cour criminelle de Ouagadougou. Ce verdict a été confirmé par la Cour d'appel qui avait requalifié les faits en mécréance, une accusation moins lourde, puis avait renvoyé son dossier devant la Cour suprême. C'est le premier cas de condamnation à mort pour apostasie en Mauritanie où la peine capitale n'a pas été appliquée depuis 1987.
Une trentaine de chefs d'État africains se réunissent aujourd'hui en sommet à Marrakech, au Maroc, en marge de la COP22. Et c'est à l'initiative du Maroc qui entend y défendre les intérêts de l'Afrique face au réchauffement climatique et aussi réaffirmer sa stratégie d'influence sur le continent africain. Alors que la 22e conférence sur le climat bat son plein, ce sommet de l'action africaine, selon ses organisateurs, veut donner une nouvelle impulsion à la lutte contre le réchauffement et à la construction de modèles de développement durable sur le continent. Pour les pays du Sud, particulièrement exposés au réchauffement, il s'agit désormais de pouvoir bénéficier d'un soutien financier et technique urgent pour renforcer leurs capacités et s'adapter au changement climatique. Et toujours concernant la COP22 à Marrakech, plus de 360 entreprises, pour la plupart américaines, parmi lesquelles les grandes compagnies DuPont, Gap, Hewlett-Packard et Hilton, ont écrit une lettre au président élu Donald Trump pour lui demander de respecter l'accord sur le climat adopté par la communauté internationale fin 2015. Nous, membres de la communauté des affaires et investisseurs aux États-Unis, réaffirmons notre engagement profond à répondre au changement climatique à travers la mise en œuvre de l'accord historique de Paris, ont écrit les signataires américains. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.